Bonjour Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence.
Aujourd'hui, nous allons parler des projets pastoraux du diocèse et la dynamique missionnaire impulsée dans l'église du Gard. On va démarrer par les sacrements. Pour le diocèse de Nîmes, nous avons eu la joie d'avoir 52 catéchumènes qui ont été baptisés la nuit de Pâques, le 30 mars dernier, adultes, sans compter les baptêmes d'enfants et d'adolescents. Et puis, samedi 4 mai prochain, vous allez confirmer 92 adultes à la cathédrale. C'est aussi sans compter le nombre de jeunes qui demandent la confirmation. Comment expliquer ce retour des jeunes, notamment à la foi ?
Écoutez, je ne sais pas si on peut tout expliquer. Parce que, évidemment, un retour à la foi, ça touche ce que les personnes vivent au plus profond d'elles-mêmes. Et donc, on ne sait pas toujours les raisons, même si la chance que nous avons, c'est que ceux qui sont confirmés écrivent à l'évêque. Et on se rend compte qu'il y a des retours à la foi qui sont assez inattendus, parfois inexplicables. Alors, parfois, c'est une situation de vie qui fait que les gens sont vraiment en recherche. Parfois, il y a aussi... des personnes qui disent, en fait, j'ai été touché par le Seigneur. Alors, ça peut être déclenché par un événement personnel, par exemple un deuil, ou par exemple un mariage, ou par exemple le fait qu'un de ses enfants demande le baptême, ou un de ses enfants fait sa première communion, et puis les parents suivent. Mmh. Il y a même des personnes qui disent, mais moi, j'ai eu un songe pendant la nuit. J'ai eu l'impression que le Seigneur m'attirait à lui. C'est le mystère de la vie des personnes, mais je constate qu'il y a quand même la recherche d'un sens profond. Et puis, la recherche d'être relié aussi à une histoire. C'est pas exactement la même chose que de trouver le Seigneur, de trouver un sens à sa vie, et puis d'être relié à une histoire de France, à une histoire de l'Église, ou l'histoire tout simplement de sa famille, qui a été chrétienne. On se souvient qu'on a des arrière-grands-parents, on avait un vieil oncle missionnaire, etc. Voilà. Mmh. C'est tout ça un peu qui se mélange. Moi, j'y vois comme évêque, tout simplement, le Seigneur qui prêche son évangile dans l'Esprit Saint, à travers le cœur, sans que nous, on y soit pour grand-chose.
En parallèle de cet attrait vers la foi, vous-même, en tant qu'évêque, vous avez aussi souhaité impulser une dynamique, notamment avec la transformation missionnaire, pastorale, où les paroisses se sont vraiment mises en route depuis plus d'un an déjà, avec les curés des paroisses, leurs équipes. On a eu un point d'orgue à Vestric le 27 janvier avec 300 personnes présentes où justement l'idée c'était de proposer des ateliers pour accompagner, mieux accueillir aussi, c'est recommençant. Quelle suite maintenant dans le diocèse par rapport à ces ateliers dans les paroisses ?
Il faut vraiment que notre église soit une église ouverte, aux portes ouvertes, et qu'elle soit tournée vers l'extérieur et qu'elle n'ait pas peur d'annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, disait saint Paul. Et donc nous, on n'est pas une église qui a pour vocation d'être fermée sur elle-même et puis simplement de gérer un peu le quotidien, mais nous voulons que l'évangile soit annoncé, soit transmis, soit proclamé dans le respect de la liberté des personnes, mais on n'a pas envie de le garder pour soi. C'est un peu ça l'idée, c'est que le trésor qui donne du sens à notre existence, qui nous fait penser vraiment, croire profondément que nous sommes aimés de Dieu, on a envie que chacun le partage. Et d'autant plus que, comme on vient de le dire là, que beaucoup de gens cherchent du sens et ont une soif du cœur. C'est la transformation pastorale, c'est aussi que nos communautés prennent conscience de cela. Alors on a fait un chemin de transformation, on va le continuer. Cet automne, on refera certainement une journée pour faire une sorte de point d'étape. Parce que, vous voyez, une fois qu'on a défini un peu l'idée, il faut que ça, c'est chaque paroisse, c'est chaque curé avec ses fidèles, avec frères et sœurs dans le Christ qui décident à partir du terrain, à partir des charismes de chacun, à partir des disponibilités, à partir des bonnes idées, à partir de ce que chacun sait faire, qui va décider de la manière. Il faut prendre des décisions, mais ces décisions, il faut les prendre ensemble avec le prêtre. Voilà, et donc là, on fera un petit point d'étape cet automne. Parallèlement à ça, on réfléchit aussi à comment est-ce que nos paroisses sont organisées, comment est-ce que les prêtres sont nommés, parce qu'on a aussi de moins en moins de prêtres, mais on a aussi de plus en plus de gens qui s'engagent aussi. Alors donc, comment est-ce qu'on organise tout cela pour que justement l'évangile soit annoncé ?
Il y a aussi différents projets que vous allez mettre en place, des temps forts, des temps de formation. Alors je pense notamment à la formation biblique fondamentale qui va débuter au mois de septembre 2024, en partie en distanciel, avec des temps de rencontre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette formation que vous avez souhaité mettre en place ? place.
Oui, c'est un projet auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire que notre foi, elle a besoin d'être nourrie. Et donc, il faut que nous, on propose des temps d'approfondissement de la foi chrétienne. On va proposer un parcours sur 3 ans, et la première année, de fait, ça sera sur l'Écriture, hein, sur la parole de Dieu. La deuxième année, ça sera sur le credo, puis la troisième année, sur les sacrements de l'initiation. Tout simplement parce qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, de croire dans le Seigneur. Mais ensuite, il faut qu'on ait une intelligence de la foi. Mmh. Ça veut dire se poser des questions, ça veut dire lire l'Écriture, hein, qui est vraiment la source de la révélation. C'est Dieu qui se révèle, donc Dieu qui nous parle. Donc il faut qu'on soit attentif à ce que Dieu dit. Et ça, ça prend de manière, disons, sérieuse dans l'étude, mais aussi dans la prière. Et donc, cette première année, elle va être centrée sur la méditer la parole de Dieu, l'Écriture sainte. On va créer des petits groupes dans les paroisses. Tous ceux qui veulent s'inscrire, faire un petit groupe de 4, 5, 6 personnes. Et puis là, il y aura des vidéos qui seront proposées, hein, qui ont été donc mises en place ici, hein, à Nîmes, avec à la fois une présentation synthétique d'un livre de l'Écriture, un ou deux textes à lire, des questions à se poser, une conclusion aussi. Ça sera quand même à la maison ou en paroisse. Des petits cénacles qui vont se retrouver. Et puis, il y a quand même un programme d'année, hein, avec quelqu'un qui, Pierre Gelin, là, qui va suivre justement tous ces groupes. Tous ceux qui veulent pourront faire un petit cénacle comme ça et approfondir la parole de Dieu. Et puis, on aura quand même 3 journées diocésaines où on se retrouvera tous ensemble, alors à la fois pour parler de la prière, mais pour découvrir aussi des réalités du diocèse. C'est extrêmement important, hein, parce qu'on a besoin de catéchèse. La catéchèse, c'est pas seulement le catéchisme des enfants. La catéchèse, c'est aussi la façon dont les adultes en permanence approfondissent leur foi pour que leur foi mûrisse avec leur mûrissement, avec leur maturité d'adulte. Et on ne peut plus se contenter d'avoir le catéchisme ses 11 ans, même si c'est un catéchisme fondamental qui a structuré la personnalité. Il y a d'autres questions qu'on se pose et il faut être aussi accompagné, hein, dans sa maturité chrétienne.
Alors un autre temps fort, hein, pour les jeunes du diocèse, ce sera en juillet 2025, hein, à l'occasion du jubilé à Rome. Donc 150 jeunes gardois sont attendus pour vivre un pèlerinage, un temps fort spirituel. Ce sera donc fin juillet, début août. Et on a aussi donc un concert de lancement, hein, de cette, on va dire, année jubilaire, le 3 mai prochain à 20h à l'église Sainte-Baudille à Nîmes. Et vous donnerez aussi un petit mot à cette occasion.
Oui, alors le jubilé, c'est un rassemblement... une invitation de tous les catholiques à venir à Rome. Pourquoi à Rome ? Pour venir en pèlerinage sur le tombeau des apôtres, Pierre et Paul, qui sont morts à Rome. On a encore leur tombeau. Les catholiques sont invités tous les 25 ans à faire ce pèlerinage pour se ressourcer dans leur foi dans le Seigneur et puis aussi foi dans l'Église, dont Pierre et le pape, son successeur, est le signe de l'unité, de la communion. Et donc, c'est si important en ce moment, vous voyez, de pouvoir faire ce pèlerinage. Alors, on propose à 150 jeunes du Gard de venir avec leurs prêtres et puis avec leurs accompagnateurs. Quand on est les jeunes, c'est 17-35 ans. On peut même venir en couple, parce qu'on peut être marié à 27, 28, 29 ans. Alors on peut laisser peut-être les petits-enfants aux grands-parents, puis venir, parce que ça va être un moment très fort, hein, de la vie de notre diocèse et puis de la vie des jeunes. On y vivra des temps de catéchèse, des temps de visite, des temps de prière, évidemment, des temps de louange, un jubilé, c'est justement rendre grâce au Seigneur, hein, pour tous les dons qu'il nous fait, en particulier le don de la foi. Alors c'est vrai qu'on commence le 3 mai avec ce concert de praise, hein, qui est un groupe de pop louange. C'est un peu pour lancer ce mouvement jubilaire, et puis qu'on le lance justement dans la louange, et puis aussi pour que chacun prenne conscience qu'il est invité. Tout le monde est, enfin, tous les jeunes de 17 à 35 ans sont invités à s'inscrire pour ce temps entre le 27 juillet et le 4 août 2025. C'est pas cette année 2024, c'est 2025.
D'autres projets, hein, plutôt en faveur donc des plus pauvres, des plus démunis. Il y a le projet de dispensaire, il y a aussi l'arrivée des 4 sœurs brésiliennes, hein, les sœurs pauvres de Jésus dans le diocèse, pour accompagner aussi donc et donner une écoute. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur ces deux projets?
Oui, alors on pourrait dire justement, pour faire le lien avec la question précédente, hein, que la foi, elle se décline ensuite de manière concrète. Hein, on peut pas simplement, la foi n'est pas une foi seulement intellectuelle, mais elle suscite justement l'amour de Dieu pour notre prochain. Et l'Église est aussi une Église servante de l'humanité. Alors il faut regarder les besoins. Enfin, la grâce qui nous a été donnée, c'est qu'il y a des gens qui font des tournées de rue, hein, qui connaissent bien les personnes de la rue dans Nîmes. et qui se sont rendus compte qu'ils étaient démédicalisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de parcours de santé, parcours de soins. Alors, et donc, nous, on voudrait faire ce dispensaire. C'est une œuvre bien modeste. Hein. On va commencer par une après-midi par semaine pour proposer à ces personnes de venir, qu'on fasse un bilan de santé avec des médecins généralistes bénévoles, voir aussi ce dont ils ont besoin pour les réinscrire dans un parcours de santé. Alors, ensuite, il y a aussi une dimension d'accueil et puis peut-être d'accompagnement, parce que s'il y a un rendez-vous de dentiste, s'il y a un rendez-vous pour faire des radios, il faut les accompagner. On aimerait faire cela. Et puis, les sœurs pauvres de Jésus, alors, elles sont arrivées fin février, elles sont quatre. Elles ont vraiment un charisme pour les personnes de la rue. Donc, elles collaboreront certainement au dispensaire. Elles vont aussi développer, aussi, en fonction de leur charisme propre, leurs propres œuvres. Ce sont des sœurs qui ont un amour des pauvres et puis une sorte de présence auprès des gens de la rue qu'elles ont développé avec beaucoup de charité, de joie, de patience. Elles sont rayonnantes. Alors, pour l'instant, elles apprennent le français.
Il y a aussi le projet donc de la maison Barnabé qui n'est même presque plus un projet puisque je crois que donc le premier résident est arrivé à la maison Barnabé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où on en est sur le projet Barnabé?
Oui, alors la maison Barnabé donc est à Vauvert, dans le château de Vauvert. C'est donc une maison pour accueillir des prêtres qui sont en burn-out, parce que le burn-out ça peut arriver aussi aux prêtres, c'est-à-dire trop de travail, l'impression d'être partout et puis de ne pas y arriver, d'être débordé et puis de ne pas être gratifié dans sa mission. C'est un couple et un prêtre, Ina et Olivier Lefrançois et puis le père Cole, qui vont accueillir des prêtres qui ont besoin soit 3 mois, soit 6 mois, soit 1 an de se refaire une santé physique, à la fois spirituelle, à la fois psychologique. C'est pas une maison médicalisée, c'est simplement un lieu d'habitation. Mais ça ne les empêchera pas de voir des spécialistes s'ils en ont besoin. C'est un peu au cas par cas. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir une vie de famille, se retrouver, même dans la configuration de la maison. Il y aura une grande cuisine avec une salle à manger dans cette grande cuisine, se retrouver autour de la table commune. Et puis, il y a des activités physiques, en particulier le travail de la terre, le sport, pour que des prêtres puissent repartir ensuite, après avoir passé ce temps de ressourcement. La maison sera ouverte officiellement le 11 juin, parce que c'est la Saint-Barnabé. C'est un collaborateur de Saint-Paul. Ça veut dire le fils de l'encouragement. Les Barnabés, c'est des gens qui encouragent, si on peut dire. Quand on dit le fils, ça veut dire des gens qui font cela. Donc là, et l'idée, c'est d'encourager les prêtres, parce que eux, ce sont des hommes de l'encouragement. Et donc, parfois, il faut qu'ils se ressourcent pour reprendre leurs forces intérieures, pour pouvoir justement encourager les autres. C'est pour la France, puis plus largement, s'il y a des prêtres étrangers qui veulent venir, c'est ouvert à tous.
Merci Monseigneur.
Merci Laurence. Bonne journée aussi à vous et puis aux auditeurs.